السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، la fois dernière on s'est arrêté dans la bataille de Uhud à la mort de Hamza et la fuite des idolâtres. Donc on avait parlé de la mort de Hamza, et on avait dit qu'après la mort de Hamza, la cavalerie va faire 3 tentatives pour essayer de contourner le mont des archers et prendre les musulmans par derrière, sauf que les archers respectent scrupuleusement l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était quoi ? Qui était, il leur a donné plusieurs consignes, plusieurs ordres, et un des ordres qu'on avait vu et qu'on reverra aujourd'hui, inshallah, c'était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit « Indahul khayla anna bin nabl, la ya'touna min khalfina » Bombarder les cavaliers pour nous protéger avec vos flèches. Criblez-les de flèches. « La ya'touna min khalfina » qu'ils ne nous prennent pas par derrière. Et leur mission, c'était ça aux archers. Et donc, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, à l'époque, lui, il était le chef de la cavalerie idolâtre, il va faire 3 tentatives qui vont échouer. Il n'arrive pas à faire passer la cavalerie par derrière, donc, khlas, la cavalerie échoue. Les duels des Bani Abdiddar pour garder l'étendard haut ont échoué, l'étendard, il est tombé. Et donc c'est la débandade finalement, et les idolâtres commencent à fuir à un tel point que les musulmans ont réussi même à atteindre leur camp de base qui est censé être un refuge. Et à un tel point, comme on avait vu, que les versions nous disent qu'ils vont voir même les femmes qui étaient là pour inciter les hommes à combattre fuir dans la montagne. Et donc, la première chose qu'il y a à dire, qu'il y a à rappeler, c'est que là, pour l'instant, on a affaire à une grande victoire pour les musulmans. Et on peut même dire que cette victoire, elle ressemble beaucoup à la victoire de Badr, sur plusieurs points. Le premier point, les duels. Ils ont tous été gagnés par les musulmans, et les duels de Badr aussi. Les morts du côté idolâtre. Certes, il y a eu des morts du côté musulman, mais pour l'instant, les musulmans, il y a beaucoup moins de morts que du côté idolâtre, même si la tendance, elle va se renverser après. Mais pour l'instant, là au point où on en est, il y a beaucoup moins de morts dans le camp musulman que dans le camp idolâtre. Également, l'étendard qui est à terre, que les Bani Abdiddar à Uhud n'arrive pas, malgré les 11 personnes qui ont tenté le coup de le garder en haut, ils sont morts, et l'étendard est à terre. À Badr, la même chose. Et peut-être qu'il y a une chose qu'on n'a pas encore ajoutée, dont on n'a pas encore parlé. Et c'est par là peut-être qu'il faut commencer aujourd'hui, avant d'en arriver à ce qui va se passer sur le mont des archers. C'est qu'il y a un autre point de ressemblance entre Uhud et Badr, en tout cas Uhud au début, au moment où les musulmans gagnent la bataille, c'est la participation des anges. Tout le monde sait qu'à Badr, il y y a même des versets du Coran qui en parlent. Allah Azza wa Jalla a envoyé des anges qui ont aidé les croyants à Badr. Qu'en est-il de Uhud? Est-ce que c'était le cas? Eh bien, on a un hadith dans l'authentique de l'Bukhari. C'est un hadith authentique. Selon le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, qui a participé, lui, à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud, afwan. Badr aussi, mais là, en l'occurrence, on parle de Uhud. Donc, on a le témoignage authentique d'un compagnon qui a lui-même vécu et participé à la bataille de Uhud. Qu'est-ce qu'il nous dit à ce sujet? Il dit Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhudin. Wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu. Alayhima thiyabun bid ka'ashadd al-qitali wa ma ra'aytuhuma qablu wa la ba'du. Il dit Ra'aytu, j'ai vu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud. J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Uhud, à la bataille de Uhud. Donc il nous raconte ce qu'il a vu de ses propres yeux puisqu'il y était. Il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Uhud, le jour de Uhud, je l'ai vu. Wa ma'ahu rajulan. Il y avait avec lui deux hommes. Yuqatilani anhu. Ils combattaient pour le défendre, pour le protéger. Ils étaient là pour le protéger. Deux gardes du corps. Alayhima thiyabun bayd. Ils avaient des habits blancs. Ils étaient habillés tout en blanc. Pour qu'ils le disent, c'est que ça l'a marqué. D'autres combattants étaient aussi habillés en blanc. Et ils étaient très blancs. Alayhima thiyabun bayd. Ka'ashadd al-qital. Et ils combattaient de manière très forte, très virulente. Ils étaient forts dans le combat. Ah, ils lâchaient rien. Et ensuite, il dit Wa ma ra'aytuhuma qablu wa la ba'd. Et je ne les ai jamais vus ni avant ça, et je ne les ai jamais revus après ça. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai vu deux hommes, ils étaient habillés en blanc, ils combattaient de manière forte. Ah, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. En tout cas, ces deux hommes, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus, ni avant, et je ne les ai jamais revus après. Ajib. Du coup, si on prend ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit ce texte? Nous laisse clairement penser que, même si ce n'est pas dit clairement, si on prend que la version de Bukhari, mais dans d'autres versions c'est dit clairement, comme je vais vous le dire, mais en tout cas si on prend pour l'instant que la version de Bukhari, on a deux hommes en blanc, mais au final qui sait, peut-être que Sa'd ibn Abi Waqqas, il ne les connaissait pas, c'est tout. Quand il a dit je les ai jamais vus avant et je ne les ai pas revus après, il y a quand même plus de 700 personnes dans l'armée des musulmans, peut-être qu'il ne les connaissait pas et qu'il ne les a jamais recroisés par la suite. Allahu a'lam. On a même des savants qui prennent cet avis. Et pas n'importe qui, l'imam Tabari. L'imam Tabari dit non, il n'y a pas eu la participation des anges à la bataille de Uhud. À la bataille de Badr, oui. Mais l'imam Tabari, qui est un mufassir, il fait le tafsir du Coran, qui est un muhaddith, qui est un spécialiste des narrations, des hadiths, et qui, en plus de tout ça, tafsir plus le hadith, il est un spécialiste de ce qu'on appelle maghazi et de sira, les expéditions, les guerres, et la biographie du prophète Hassan. C'est un spécialiste de ces trois choses-là. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit, l'imam Tabari? Non. Il n'y a pas eu de participation des anges à Uhud. À Badr, oui, mais pas à Uhud. Pourtant, nous, on a un hadith sahih. Qui nous laisse penser ça. Et même, je vais aller plus loin, on a une version, là, je vous ai donné la version de l'imam al-Bukhari. On a une version chez Muslim, et Muslim aussi c'est authentique. Ce qui est dans l'authentique de Muslim, c'est authentique. Qui nous dit exactement la même chose, selon le même compagnon, Sa'd ibn Abi Waqqas. La seule chose, il donne deux précisions qu'on n'a pas chez le Bukhari. Première précision, il dit j'ai vu deux hommes, un à sa droite et un à sa gauche. On ne savait pas où est-ce qu'ils étaient placés exactement. Dans la version de Muslim, on a dit qu'il y en a un à sa gauche et un à sa droite et un à sa gauche. Vous allez me dire ça ne rapporte pas quelque chose en plus sur le fait que c'était des anges. Mais à la fin, il dit Rajulan, ya'ni Jibril wa Mika'il. Il dit deux hommes, c'est-à-dire Jibril et Mika'il. Et s'il dit ça, ce qu'il n'a pas sorti de sa tête, c'est qu'il a dû poser des questions, c'est qu'il a dû le savoir par le prophète Mohammed. Mais c'est un hadith authentique. Donc là, on ne peut pas dire non, ce n'est pas des anges. C'est des anges. Et ça explique pourquoi Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, il ne les connaissait pas et il dit plus jamais après, je vais les revoir dans ma vie. Pourtant, Saad ibn Abi Waqqas, il va vivre des années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va vivre longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, je ne les ai jamais vus avant, et jamais après la bataille de Uhud, je ne les ai revus. Tabari dit, si les anges avaient participé, et encore plus Jibril et Mikaïl, c'est impossible que les musulmans auraient pu perdre la guerre de Uhud. Ça se tient comme argumentation. Jibril et Mikaïl, ils participent à la bataille. Et peut-être d'autres anges, et on va perdre la bataille. C'est impossible. Le fait que les musulmans ont perdu la bataille de Uhud, c'est une preuve que les anges n'ont pas participé. Donc comment tu fais? Tu as un hadith sahih d'un côté qui est rapporté dans les deux authentiques, avec deux versions différentes. Une chez Bukhari, une chez Muslim, et de l'autre côté, tu as un imam spécialiste des hadiths, spécialiste de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des expéditions, des guerres, qui te dit c'est impossible, et qui te donne même la logique. Alors dis-moi, il dit que dites-moi, expliquez-moi comment ça se fait qu'à Uhud ils ont perdu si les anges ils ont participé. Les idolâtres sont plus forts que les anges. Est-ce que quelqu'un oserait dire ça? Est-ce que quelqu'un pourrait dire les idoles? Ah, l'argument est fort. L'imam al-Qurtubi, qui lui aussi un mufassir, il rejoint la vie de Tabari. Par contre, lui, il ne fait pas comme Tabari. Il ne nous laisse pas sans explication face au hadith. Lui, il dit, et je sais que certains, l'imam al-Qurtubi va loin, il dit, je sais que certains pourraient me rétorquer, mais le hadith, chez le Bukhari et chez Muslim, il est authentique. Qu'est-ce que vous faites avec le hadith? L'imam al-Qurtubi dit, na'am, il est authentique. Il dit, bien, probablement que le hadith, il parle de quoi? Il parle de la seule participation de Jibril et de Mikaïl qui avaient une seule mission, c'est protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais rien ne dit dans ces hadiths qu'on avait une armée d'anges comme à Badr qui sont descendus et qui ont combattu tous les idolâtres. Ce hadith nous dit qu'il y avait deux anges qui sont venus et qui étaient là comme des gardes du corps pour protéger le professeur Hassim, surtout qu'il va en avoir besoin après, quand on va voir que la tendance elle va se renverser, que le professeur Hassim va être pris par des dizaines d'idolâtres qui vont essayer de le tuer. Donc il dit, le hadith, il nous dit, et il dit la participation des anges qu'il y a eu, c'est juste pour le professeur Hassim, pour défendre et pour protéger le professeur Hassim. Il dit, parce que Tabari a raison, comment on pourrait défendre l'idée qu'avec la participation des anges, ils perdent comme une bataille. Et il dit surtout que la version de Bukhari et Muslim, toutes les deux, elles disent qu'achad il qital. Ils ont combattu, ils ont donné le maximum de ce qu'ils avaient. On va les voir combattre et donner le maximum. Et c'est des anges. Ils n'ont pas pu perdre. Donc c'était juste pour défendre le professeur Hassan. Ils ont rempli leur mission, ils ont défendu le professeur Hassan. Ils l'ont protégé. Ah, ça c'est la vie de Al-Qurtubi. Cependant, vous avez quand même d'autres savants qui donnent d'autres explications, qui sont, Allahu a'lam pour ma part, plus acceptables. C'est quoi? C'est que vous avez par exemple des savants qui disent, les anges, si on prend ce texte, il nous dit quoi, Saad ibn Abi Waqqas? Il nous dit, j'ai vu deux hommes, habillés en blanc, etc., qui combattaient, qui donnaient le maximum. C'est des hommes. Sahih, c'est des anges, mais sous forme humaine. Et quand ils sont sous forme humaine, ils ont les limites des êtres humains. Ils n'ont pas les pouvoirs des anges, ils ne sont pas venus en tant qu'anges. On sait qu'un ange, juste avec une aile, ou juste en soufflant, c'est toute la terre qui est finie, qui est partie. Pas juste l'armée idolâtre. Mais ils sont venus sous forme humaine, et donc ils ont la même limite que les êtres humains. Et donc, ils ont donné le maximum, c'est-à-dire ils étaient sous forme humaine, des hommes forts, des hommes vigoureux, braves, courageux. Mais malgré tout, ce n'étaient pas des surhommes. Donc, il dit, la participation des anges, ils disent, ces savants-là, il faut la comprendre comme ça, en tant qu'hommes forts. Ils viennent sous forme humaine, sinon ce serait trop facile. Sinon, Allah Azza wa Jalla, il n'a même pas besoin des anges. Il dit, kun fayakun. Pas besoin même pas que la guerre elle commence. Allah Azza wa Jalla, il peut donner la victoire aux musulmans sans participation des anges. Tafakna. Donc, le plus raisonnable est de penser ça. C'est que ce texte nous montre qu'il y a quand même une participation des anges, mais que ces anges y participent sous forme humaine. Et voilà. Après, il y a une autre hypothèse qu'on peut donner. C'est peut-être que les anges ont participé au début de la bataille, ils ont contribué à la victoire, et qu'au moment où les archers, ou la majorité des archers vont désobéir à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges n'ont plus rien à faire là, ils repartent. Donc au début, ils ont gagné, ils étaient là, mais quand ils vont voir qu'il y a des compagnons qui abandonnent leur poste, qui désobéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges, ils partent. Ils étaient là tant que les compagnons, ils obéissaient. À partir du moment où ils obéissent plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils partent. Aïe, waouh. J'ai dit les compagnons, que certains. Et après, est-ce qu'on doit dire qu'ils ont désobéi à l'ordre ou pas? Ça aussi, on va en parler plus tard. Il y a plusieurs hypothèses chez les savants. Est-ce qu'on doit considérer qu'ils ont clairement désobéi, ou alors ils ont interprété, d'une certaine manière, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, en tous les cas, on a dit que, pour toutes ces raisons, ce début de victoire à Uhud pour les musulmans, il ressemble à la victoire de Badr. Pour toutes ces raisons. Les morts du côté idolâtre. Les pertes des duels pour les idolâtres. L'étendard des Bani Abdiddar qui reste à terre, que ce soit à Badr ou à Uhud. En tout cas pour Uhud, jusqu'à ce moment de la bataille, parce qu'après ils vont le reprendre. C'est même une femme qui va reprendre l'étendard, comme on le verra. Et la participation des anges. Même si on a dit, il y a deux avis chez les savants. Est-ce que les anges, ils ont participé de manière générale dans toute l'armée, ou c'est juste pour défendre et pour protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et cette victoire, Allah azza wa jalla, il fait référence dans le Coran. Le verset 152 de Surat Ali Imran, Allah Azza wa Jal nous dit: وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ فَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Le verset est long. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il nous parle de ça. Afwan. Il dit: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. Et Allah, donc Allah ici parle de la bataille de Uhud. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. Allah, il a tenu son engagement, sa promesse de vous donner la victoire. Il parle de quoi? De Uhud. Pourtant Uhud, au moment où ce verset est révélé, la bataille de Uhud, elle est perdue. Parce qu'il y a certaines versions dans les tafsirs qui nous disent que ce verset, il a été révélé à quelle occasion? Au moment où des compagnons, ils ont dit: comment ça se fait qu'on a perdu cette bataille alors qu'Allah Azza wa Jalla nous a promis qu'on allait gagner? Et ce verset a été révélé. Allah a tenu son engagement. Il vous a fait gagner. C'est vous qui n'avez pas tenu votre engagement. Il dit Allah, il vous a fait gagner, il a tenu son engagement. Hatta idha fashiltum. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où vous avez échoué vous-même. Ici, fashiltum, la plupart des exégèses, ils nous disent jusqu'à ce que vous ayez été pris de lâcheté. Parce que comme on va le voir, certains musulmans, certains compagnons, ils vont fuir le champ de bataille. Donc probablement, hatta idha fashiltum, vous avez eu peur. Ça c'est qui? C'est pour qui? C'est pour certains compagnons qui vont fuir. Hatta idha fashiltum. Wa tanaza'tum fil amr. Et que vous êtes querellés. Qu'est-ce qui va se quereller? Les archers. Ils vont se disputer, comme on va le voir. Il y en a qui vont dire non, on reste. Il y en a qui vont dire non, on part. Wa'asaytum. Et vous avez désobéi. Qui? Ceux qui vont quitter le mont des archers. Et qui vont descendre. Mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Et vous avez fait ça. Vous avez fui. Vous avez été pris de peur, de lâcheté. Certains d'entre vous. Certains d'entre vous, ils se sont disputés. D'autres, ils ont désobéi. Après quoi? Après qu'Allah vous ait montré ce que vous aimez. C'est quoi qu'ils ont aimé? C'est la victoire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous deviez vous dire, Allah est de notre côté. On doit continuer à être sur le bon chemin. Alors qu'Allah y a tenu son engagement, il vous a donné ce que vous vouliez, ce que vous espériez, ce que vous aimiez, ce que vous désiriez, vous avez fait tout ça. فمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. Parmi vous, il y en a qui veulent la vie d'ici-bas. Ah. Et d'autres qui veulent celle de l'au-delà. Parce qu'il va y avoir les deux. Ça reste des êtres humains. Il y en a qui vont avoir peur, et il y en a, ils vont donner de leur vie jusqu'au bout. Ils ne vont rien lâcher. Donc il y a les deux. Il y a ceux qui veulent dunya, il y a ceux qui veulent akhira. Ceux qui veulent la vie d'ici-bas, et ceux qui veulent la vie de l'au-delà. Et ensuite Allah vous a éloigné d'eux. Les savants ils nous disent, ça veut dire quoi Allah vous a éloigné d'eux? Il vous a éloigné d'eux, c'est-à-dire ils étaient à fond dedans, ils étaient en train de gagner, et Allah il a pris les croyants, il les a éloignés. Il les a éloignés des idolâtres et du fait de gagner contre eux. Afin de vous éprouver, afin de vous tester. وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ. Et Allah vous a pardonné. Allahu Akbar. Et Allah vous a pardonné. وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Et Allah, il est le bienfaiteur envers les croyants. Non. Allah est le bienfaiteur envers les croyants. Donc ce verset, il nous dit quoi? Il nous parle de quoi? Il nous parle de Uhud. Et il prouve quoi? Il prouve que les croyants, ils avaient la victoire à Uhud. Et que Allah Azza wa Jal a tenu la promesse de Uhud. D'ailleurs, à ce sujet, pour aller jusqu'au fait que c'est vraiment, ça concerne vraiment la victoire de Uhud, on a dans le recueil de l'imam Ahmad un hadith, ou plutôt un athar, puisque c'est quoi la différence entre un hadith et un athar? Un hadith, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un athar, c'est une parole de compagnon. Ah. Et donc là, on a affaire à un athar, une parole de compagnon. Le compagnon Ibn Abbas. Dans le musnad de l'imam Ahmad, le recueil de l'imam Ahmad, cette narration, elle a été authentifiée par un spécialiste du hadith comme Ahmad Shakir, et elle a été affaiblie par un spécialiste du hadith comme l'Albani. Et c'est tous les deux des contemporains. Ils se sont même connus, se connaissaient, et ils ont vécu à la même époque, fin du siècle dernier. Ahmad Shakir, rahimahullah, et l'Albani. Sauf qu'ils n'étaient pas d'accord sur est-ce que ce hadith est authentique ou pas. Ahmad Shakir, il a dit il est authentique. L'Albani, il a dit il est da'if. Et un autre muhadith qui est toujours vivant, le Barzanji, lui, il prend les argumentations des deux, d'Ahmad Shakir et de l'Albani, rahimahullah. Et il dit l'argumentation la plus probable, c'est celle d'Ahmad Shakir, ici pour la narration de l'imam Ahmad. Ala kulli hal, on ne va pas rentrer dans le détail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmad. Il rapporte la parole d'Ibn Abbas, qui nous dit. Ibn Abbas, il dit « Ma nasara Allah fi mawtinin kama nasara fi Uhud » Il n'y a pas un endroit où Allah a autant donné la victoire aux musulmans qu'à Uhud. Ibn Abbas, quand il dit ça, la bataille, elle est finie, tout le monde sait ce qui s'est passé, que ça a été un désastre. Des grands compagnons sont morts, ils ont été mutilés, les compagnons, le prophète Hassan, ils ont dû se réfugier sur la montagne de Uhud, tout ça, on le sait, c'est fini la bataille de Uhud. Ibn Abbas, il dit, il n'y a pas un endroit où Allah, il a rendu autant victorieux les musulmans qu'à Uhud. Et le texte, il dit, fa ankarna dhalik. Les gens qui ont entendu ça, ils ont dit, on n'était pas d'accord. Mais non, à Uhud, on a perdu. Tout le monde le sait, subhanallah, on a encore la preuve. Il suffit d'aller à la montagne de Uhud, on voit le cimetière des Shuhada. Cimetière des martyrs. Ibn Abbas, il dit, Bayni, toujours dans cette version, il dit, Bayni wa bayna man ankar, kitabullah ta'ala. Il dit, alors si vous n'êtes pas d'accord, il y a entre moi et entre ceux qui nient que c'était une grande victoire à Uhud, le livre d'Allah. C'est ça qui va juger entre nous et qui va trancher. Qui est-ce qui a raison? Vous ou moi? Il dit, Inna Allah Ta'ala yaqulu fi yawmi Uhud. Inna Allah Ta'ala yaqulu fi Uhud. Allah dit à propos de la bataille de Uhud, ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون الآية. Allah vous a donné la victoire jusqu'à ce que vous fassiez preuve de lâcheté, que vous vous querelliez, que vous désobéissiez, etc. Il dit ce verset, il parle de Uhud et Allah, il le commence en disant quoi? Et Allah vous a donné la victoire, il a tenu sa promesse jusqu'à ce que vous avez fait ça. Donc il dit, il n'y a pas un endroit où Allah il a autant donné la victoire qu'à Uhud. Et sahih, si on prend que le début de la bataille, ils sont trois fois moins nombreux. Ils n'ont aucun cheval, la cavalerie d'en face, elle est 200 chevaux, etc., etc. Ils sont surarmés. Ils ont les Ahabish. Ils sont 3 000 hommes, et parmi les Ahabish, ils sont 2 000. On avait dit les Ahabish, c'est une sorte de milice de l'époque qui était spécialisée dans le combat. Et malgré tout, ils ont réussi à avoir le dessus au début. Donc s'ils devaient perdre à cause du nombre, à cause de la superpuissance des idolâtres, ça aurait dû être un échec dès le début, pas après. Et pourtant, ils ont gagné au début. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le nombre qui a fait la différence. C'est le fait qu'ils étaient sur le chemin, qu'ils ont obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, à la couleur. On en vient à présent au mont des archers. Donc il faut d'abord se remémorer que sur le mont des archers, il y a 50 archers, selon un certain nombre de versions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va désigner 50 archers, des personnes qui savent bien viser au tir à l'arc. Parce qu'ils sont en hauteur, il y a une distance, les cavaliers, ça galope. Donc, il faut être capable de viser correctement. Et donc, ils vont être sur le mont des archers. 50. Et à la tête de ces hommes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne comme chef Abdullah ibn Jubayr, radiyallahu anhu, qui, comme on va le voir, est sur le point de perdre la vie sur le mont des archers. Parce que lui, le chef des archers, il va rester jusqu'au bout. Et il va défendre coûte que coûte le passage. Il va tout faire pour empêcher les cavaliers de passer. Et s'il faut pour cela donner sa vie, il va la donner, il va la donner. Non. Un certain nombre vont mourir sur le mont des archers, comme on va le voir. Les versions, qu'est-ce qu'elles nous disent? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons, à ses 50 compagnons, d'être sur le mont des archers, il leur donne des consignes qui sont on ne peut plus claires. On a tout d'abord la version de l'Bukhari, authentique. Qu'est-ce qu'elle nous dit la version de l'Bukhari? Le professeur Sim dit aux compagnons qui sont donc les archers qui sont sur la montagne, il leur dit La tabrahu, ne bougez pas. Il les met sur la montagne, il dit vous, votre place, elle est là. Et il leur dit quoi? La tabrahu, ne bougez pas. Normalement, c'est clair, ne bougez pas. Mais au cas où c'est pas assez clair, le professeur Sim précise In ra'aytumuna zaharna alayhim fala tabrahu. Si vous voyez qu'on a le dessus sur eux, qu'on gagne, ne bougez pas, même si on gagne. Et si vous voyez que c'est eux qui gagnent contre nous, ne nous aidez pas. Et ce compagnon, ce hadith, il est rapporté par qui? Par le compagnon Al-Bara ibn Azib, qui lui aussi était là. Et il dit ensuite, falamma laqina harabu. Et il dit lorsque nous, donc les combattants, parmi les idolâtres, pas les archers, laqina, on a croisé les idolâtres, donc on a fait le face à face, harabu, ils se sont enfuis. Hatta ra'aytu an-nisa, jusqu'à ce que j'ai vu les femmes. Yashtadidna fil jabali, courir et s'enfuir à travers sur la montagne. Yashtadidna fil jabali, rafa'na an souqihin. Elles ont retroussé les habits, comme on avait dit la semaine dernière, les robes, pour courir plus vite, pour s'échapper, pour fuir plus vite, pour pas que leurs pieds ils prennent et ils soient ralentis par leurs vêtements. Rafa'na an souqihin. à un tel point qu'on voyait qu'elles laissaient apparaître leurs bracelets qu'elles mettent autour des chevilles. Aïwa, le khalakhil. Donc la consigne, ici ce qui nous intéresse, c'est la consigne du prophète Asma, elle est claire. In ra'aytumuna dhaharna alayhim fala tansuruna fala tabrahu afwa fala tabrahu wa in ra'aytumuhum dhaharu alayna fala tu'aynuna. Si vous voyez que on a le dessus, ne bougez quand même pas de votre place. Et si vous voyez que c'est eux qui ont le dessus, ne venez même pas, même pour nous aider, ne nous aidez pas. Dans d'autres versions qui ont été authentifiées par certains, le professeur Hassan leur dit Uhmu dhuhurana. Protégez nos arrières. Il dit aux archers, protégez nos arrières. Uhmu dhuhurana. Fa in ra'aytumuna nuqtal, fala tansuruna. Si vous nous voyez être tués, ils sont en train de nous tuer, on perd la vie. Fala tansuruna, ne nous secourez pas. Wa in ra'aytumuna qad ghanimna fala tushrikuna. Et si vous voyez qu'on commence à prendre le bulletin, ne venez pas vous associer à nous. Et dans une autre version, wa la tabrahu hatta ursila ilaykum, et ne bougez pas jusqu'à ce que j'envoie à vous. Ne bougez pas ne quittez pas votre poste jusqu'à ce que j'envoie à vous quelqu'un qui vous donne l'ordre, qui vous dit maintenant c'est bon, vous pouvez venir. Et donc, et on a encore d'autres versions. Par exemple, la version qui dit wa in ra'aytumuhum wa in ra'aytumuna taqtafuna at-tayr. Et même si vous voyez même des oiseaux venir et nous s'emparer de nous, nous saisir. C'est une métaphore que le professeur Samy fait. Donc les ordres, ils étaient clairs pour les archers. Et pourtant, ah, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le fait que les archers, il faut se remettre dans le contexte des archers. Il faut se mettre à leur place. Parce que quand je vous donne les consignes comme ça, vous allez vous dire quoi? N'importe quelle personne va dire, bah, normalement c'est clair, je ne comprends pas pourquoi il y en a qui ont quitté. Mais c'est la majorité des archers. 40 archers sur 50, il y en a 50. Les 40 archers sur 50 vont quitter le monde des archers. Comment ça se fait? Alors que leur chef, Abdullah ibn Jubayr, va leur dire, Mahlan, attendez, vous ne vous rappelez pas de ce que le professeur Samil l'a dit? Comment ça se fait? Eh bien, si on se remet dans le contexte, tu reçois des ordres clairs de la part du professeur Hassan, tu vas sur le mont des archers, tu es en stress, tu es sous pression, tu vois ton armée d'un côté, l'armée des idolâtres trois fois plus nombreuse de l'autre, et toi, ton rôle, c'est de rester sur ce mont et d'empêcher la cavalerie qui est postée juste à côté du mont de passer pour prendre les musulmans par derrière. Et il voit la bataille. Il voit les 11 duels. Et il voit les musulmans gagner les duels. Ils ont gagné, c'est fini. L'étendard, il est par terre, plus personne n'ose le prendre. Il voit Hamdala ibn Abi Amir, le premier qui arrive à percer les rangs et qui arrive jusqu'à Abu Sufyan. Il voit ça. Il voit certes que certains compagnons meurent, comme Hamza, mais que ça rajoute encore plus. Et il voit même que finalement, les idolâtres commencent à fuir. Et commencent tellement à fuir qu'il y a une partie des musulmans qui continuent à les pourchasser, à un tel point qu'ils voient des femmes fuir sur les montagnes et des hommes idolâtres les suivre. Et une autre partie des musulmans qui s'affaire à ramasser le butin dans le camp de base des idolâtres qui a été abandonné. Et donc, c'est fini. Malgré toutes les consignes, certains peuvent penser que c'est fini. Parce que certains peuvent se dire, quand le professeur Hassem il a insisté sur ces consignes-là, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Surtout, attention, ne quitte pas ton poste. Tant que, il y en a qui pourraient l'interpréter comme ça, tant que tu n'es pas sûr à 200% que c'est vraiment fini. Et donc, la façon d'être sûr que à 200% que c'est fini, c'est que moi, le professeur, je t'envoie quelqu'un, comme il a dit, hatta ursila ilaykum, jusqu'à ce que je vous envoie quelqu'un vous prévenir que c'est bon, vous pouvez nous rejoindre. Mais certains, ils peuvent se dire, il l'a dit de cette manière juste pour nous faire comprendre que il faut rester jusqu'au bout. Mais c'est bon, la mission, elle est remplie. Et surtout, ce que j'ai oublié de vous rappeler, c'est quoi? C'est que Khalid ibn al-Walid, qui est à la tête de la cavalerie, il a essayé 3 fois de passer et il n'a pas réussi. Donc c'est tout, c'est bon. Il a réussi à essayer une fois, on les a repoussés avec nos flèches. Il a essayé une deuxième fois, on les a repoussés. Il a essayé une troisième fois, on les a repoussés. Et Khalid ibn al-Walid, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la cavalerie, il s'éloigne. Pourquoi il s'éloigne? Parce qu'il voit que le camp il est mis à sac. Il voit les idolâtres qui commencent à fuir, certains sur la montagne, des femmes. Donc il commence à s'éloigner parce que il veut aussi préserver sa cavalerie. Il s'éloigne, mais pas trop, parce qu'il va revenir après, quand il va voir que les archers vont partir. Donc les archers voient la fuite. Ils voient le camp idolâtre qui est pris d'assaut par les musulmans. Et ils voient la cavalerie. C'est leur mission, c'est quoi? C'est la cavalerie. Ils doivent l'empêcher de venir. Qu'elle commence à partir, elle s'éloigne. Parce qu'elle a peur, elle aussi. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire encore ici? Il faut rejoindre les musulmans pour célébrer la victoire, pour participer au butin, etc., etc. Mais lui, Abdullah ibn Jubayr, celui qui a été nommé à la tête des archers, et c'est là où on voit le stratège qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'un autre chef aurait pu dire, bah oui, on n'a plus rien à faire ici, vous avez raison, yallah. Peut-être même c'est ce chef qui aurait dit, c'est bon, la cavalerie elle commence à s'éloigner, le camp des idolâtries est pris d'assaut, le butin il commence à être ramassé, les femmes elles fuient, les idolâtries fuient, ils se réfugient dans la montagne, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Rejoignons le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le féliciter. Mais le chef, lui, dit non, moi j'applique à la lettre la consigne. Je suis un littéraliste. Et donc il va essayer de dire à ceux qui sont là qu'il faut rester, mais ils ne vont pas l'entendre, ils ne vont pas l'écouter. Et au minimum, on peut dire qu'ils ont interprété l'ordre du professeur sallam. Donc est-ce qu'on peut dire qu'ils ont désobéi à l'ordre du professeur sallam? Certains savants le disent. Et d'autres, ils disent non, ils l'ont interprété de la manière dont on vient de l'expliquer. Mais au minimum, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont désobéi au chef que le professeur Hassan leur a nommé, Abdullah ibn Jubayr. Parce qu'Abdullah ibn Jubayr, à ce moment-là, il a tenté de les gérer, il leur a dit, restez. On a plusieurs versions qui nous disent qu'il leur a dit, attendez, où allez-vous? Avez-vous oublié ce que le professeur Hassan m'a dit? Mais ils ne l'écouteront pas. Parce qu'ils vont lui dire, c'est bon, al-ranim, al-ranim. Le butin, le butin. Non. Et donc, ils vont descendre. Combien? 40 personnes. Abdullah ibn Jubayr, accompagné de 9 hommes, vont rester sur le mont des archers. Et là, Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, il voit que la grande majorité, 40 archers descendent. Il se dit, c'est le moment. C'est le moment. Et il faut savoir que pendant tout ce temps-là, pour bien vous imaginer le champ de bataille, on a une partie des musulmans qui sont dans le camp en train de ramasser le butin. D'autres musulmans qui continuent à pourchasser les idolâtres. Certains idolâtres qui tentent de se réfugier, de fuir. Mais il y a quand même encore un noyau idolâtre autour d'Abou Soufiane qui résiste. Et Soufiane, Abou Soufiane attend. Il regarde, est-ce qu'enfin la cavalerie elle va arriver les sauver? Et donc Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, qui était un grand stratège, et il va en faire preuve quand il était idolâtre, et il va aussi largement en faire preuve quand il va devenir musulman. Dès qu'il voit les archers descendre, il rappelle sa cavalerie, il dit retournons, il ne reste plus que quelques archers, mais on ne pourra passer qu'après les avoir exterminés. Et de toute façon, Abdullah ibn Jubayr refuse de le laisser passer. Mais là, ils sont plus assez nombreux. Vous avez 200 cavaliers. Quand ils étaient 50 et qu'ils se réfugiaient sur le mont, il les bombardait de flèches. S'ils essayaient d'escalader, ils avaient le temps de leur tirer des flèches parce qu'ils étaient 50. 50 qui tirent des flèches les unes après les autres, même si t'es 200, t'as du mal. Ils perdaient des hommes. Donc Khalid ibn al-Walid, il leur demandait de revenir. Sauf que là, il reste plus que 10 archers. Les 10 jusqu'au dernier vont être tués. Ils vont être exterminés par la cavalerie de Khalid ibn al-Walid. Et donc ça ouvre le chemin à Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, et sa cavalerie. Et de l'autre côté, le noyau d'idolâtres qui voit ça, Abu Sufyan, il le voit, il est sur sa chamelle et il le voit, il voit enfin la cavalerie arriver, et donc il ordonne la contre-attaque. Et il rappelle les hommes, même ceux qui ont fui, et ceux qui ont fui sur la montagne, ils voient que la cavalerie elle arrive. Et donc ils redescendent. Et donc c'est ça qui va faire que les musulmans vont être pris en étau. Et le professeur Salim est derrière. Il regarde de loin la bataille. Et il est surpris par la cavalerie qui arrive derrière. Et il va dire, selon certaines versions, « Ma ansafana qawmuna ». Nos hommes, les nôtres, n'ont pas été justes envers nous. Il y en a, ils sont descendus, du moins alors qu'il leur avait dit de rester. Et qu'à cause de ça, la cavalerie, elle passe. Et ils arrivent droit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur l'armée des musulmans qui va être prise devant par les idolâtres, le noyau d'Abu Soufiane et tous les autres, les fuyards qui reviennent, et derrière par la cavalerie. Ah. Et donc là, la tendance, elle va se renverser. Qu'est-ce qui va se passer en premier? Comment la tendance, elle va se renverser? Quels sont les premiers événements qui vont se passer à ce moment-là? Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.